Le débat du jour, Guillaume Nodin.
Bonjour ou bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans le débat du jour. Ce sera donc les 20 et 27 juin. La date des élections régionales et départementales a été reportée d'une semaine supplémentaire après un premier report de 3 mois. La décision de l'exécutif prise après une consultation express des maires a été massivement approuvée par l'Assemblée nationale et le Sénat. Dans un contexte de pandémie, les conditions sanitaires du déroulement de la campagne et du vote seront scrutées de près, tout comme les résultats, à moins d'un an de la présidentielle. Élection régionale, quelle campagne et quels enjeux? C'est la question du jour. Et pour en parler, 3 invités sont en direct avec nous aujourd'hui par téléphone, distanciation oblige. Jérôme Sainte-Marie, bonjour.
Bonjour à vous.
Vous êtes sondeur et politologue, président de l'Institut Pollingvox. Arnaud Benedetti, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes professeur en histoire de la communication à l'université Paris-Sorbonne, rédacteur en chef de la revue politique et parlementaire, auteur du livre « Le coup de com' permanent » aux éditions du CERF. Et Henri Vernet, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes rédacteur en chef adjoint au quotidien Le Parisien aujourd'hui en France. Les Français auraient dû voter là, ces jours-ci. Et très franchement, on peine à croire qu'ils auraient eu la tête aux élections compte tenu de la situation sanitaire. Jérôme Sainte-Marie, est-ce que on peut imaginer que ce sera mieux en juin?
Par rapport à ce que ça aurait été, je ne sais pas. Les élections régionales ne sont pas des élections marquées par une passion particulière de l'opinion. Vous avez, la dernière fois, vous aviez déjà 50% d'abstention. C'est des élections compliquées pour les Français parce que les régions en France n'ont pas autant d'existence affective que dans d'autres régions. Ça n'a rien à voir avec les régions italiennes ou les Länder allemands, par exemple, pour ne rien dire de l'Espagne. Et en plus, elles ont été redécoupées. C'était déjà le cas lors des dernières élections en 2015. Et donc, on a des espèces de monstres administratifs que, par commodité, nous avons appelés régions.
Arnaud Benedetti, pourquoi un report d'une semaine? Qu'est-ce que ça change? Quel est le message, au fond, vous qui êtes spécialiste de communication politique?
Le message, vraisemblablement, en l'occurrence, c'est pour s'assurer que sanitairement, la situation sera, disons, si ce n'est aplanie, en tout cas moins contraignante, et que reporter d'une semaine, c'est gagner du temps par rapport à un calendrier pandémique qui continue à faire pression. Mais on a vu déjà qu'un certain nombre de parlementaires, on a vu par exemple Monsieur Bas au Sénat, qui lui, de son côté, considère que ce report risque d'accroître le phénomène d'abstention parce que nous serions au plus près des vacances. Bon, ce qui reste pour le coup à démontrer. En l'occurrence, c'est vrai que le problème de ces élections, c'est d'ailleurs le problème aujourd'hui de beaucoup d'élections locales, et c'est d'ailleurs un des paradoxes, parce que on considère que le personnel politique local bénéficie, disons, d'un capital de proximité, comme le montrent un certain nombre d'études d'opinion, mais bon, on constate malgré tout qu'il y a une montée de l'abstention, y compris dans ces élections, et pas seulement d'ailleurs en raison de la crise sanitaire, comme on l'a vu aux dernières élections municipales. C'est une tendance qui est une tendance de fond.
Henri Vernet, ce report limité a quand même créé quelques remous dans la majorité au sein du parti présidentiel, au sein même de La République En Marche, et avec les alliés du Modem, hein, où on était très majoritairement favorable à un report jusqu'à à la rentrée. Quelles conséquences cela peut-il avoir?
Bon, ben, des conséquences sur la marche de ce tandem, quoi, de la majorité présidentielle, très clairement, ça peut laisser des traces, parce que le Modem était déjà assez mécontent d'une autre promesse, autrement importante d'ailleurs, qui n'a pas été tenue hein, par Emmanuel Macron, c'est l'introduction de la proportionnelle, du vote à la proportionnelle pour les prochaines législatives. Donc là, en plus, réapparaît cette bisbille sur, en effet, un calendrier, en réalité, oui, le Modem et une partie de la majorité, on a même vu d'ailleurs Richard Ferrand, hein, président de l'Assemblée, de manière assez soit naïve, soit cynique, demander tout simplement un report à octobre pour en expliquant qu'en gros ça laisserait plus de temps aux challengers que sont les candidats LREM un peu partout aux challengers, si ce n'est même d'ailleurs porteurs de cause perdue, de faire campagne devant des présidents de région, présidents et présidentes de région qui eux et elles bénéficient d'une certaine prime au sortant hein, qui est bien réelle dans ce scrutin qui s'annonce au fil des sondages. Donc les traces, les conséquences que ça aura, ben, c'est ça, c'est une majorité majorité présidentielle qui quand même va être encore un peu plus fragilisée. Et puis surtout l'idée d'un certain une parole un peu chaotique, quoi, c'est-à-dire que cafouillage entre les expressions de Castex d'un côté, donc de Richard Ferrand de l'autre, de différents ministres, oui ou non est-ce qu'on reporte ces présidentielles, donc c'est régional, pardon, donc ça laissera des traces. Et puis il faut quand même bien le dire, ça fait ressortir, alors évidemment, les arrière-pensées électoralistes, hein, je viens de les évoquer, c'est-à-dire la prime au sortant est donc de subir une nouvelle raclée après la raclée des municipales, c'est important pour le camp présidentiel. Alors certes, ce serait le même cas en octobre, mais en réalité, on pouvait soupçonner, c'était d'ailleurs le cas, rappelez-vous, de Jean-Louis Debré qui avait été chargé d'une mission sur cette élection, on pouvait penser que le vrai souhait, c'était carrément de reporter ces régionales à après la présidentielle, ce qui était a priori pas aberrant de la part du président.
Oui, c'était une idée qu'il avait depuis longtemps, hein. Ça fait longtemps qu'il a peut-être un petit problème avec ces élections régionales.
Bah, il sait qu'en gros, le camp présidentiel sait qu'il va les perdre. Donc oui, le problème, il est là tout simplement. C'était éviter un scrutin. Après, il y a quand même aussi, il ne faut pas le négliger, mais ça je laisserai aussi la parole aux deux autres intervenants, mais des camarades, il y a quand même aussi la réalité du risque sanitaire. Et cette consultation des petits maires, c'était important à cet égard, parce que c'est eux qui sont face à leurs administrés, aux citoyens, c'est eux qui les affrontent un petit peu tous les jours, et qui ont vu les problèmes causés par le premier tour des municipales, qui d'ailleurs, pour beaucoup d'entre eux, n'ont pas eu à administrer, à organiser de deuxième tour en juin parce que beaucoup avaient été élus dès le premier tour. Et donc ça, ce sont des problèmes sanitaires bien réels et qui exposent non seulement donc aux réticences des électeurs, mais également à des risques juridiques.
Oui, Jérôme Sainte-Marie, j'allais vous poser la question de la comparaison avec les municipales de l'an dernier. Est-ce que ces élections départementales et régionales, hein, on n'oublie pas les départements, est-ce que ces élections vous paraissent mieux nées, mieux engagées que les municipales de l'an dernier, dont les deux tours se sont tenus à plusieurs semaines d'écart, avec entre les deux un confinement très strict.
Alors d'abord, j'avais effectivement moi aussi rappelé la concomitance des élections régionales avec les départementales, on y reviendra. Ces deux élections qui ont des logiques radicalement différentes, et les départementales sont au moins aussi importantes, à mon avis, même davantage que les régionales. Par rapport aux municipales de l'année dernière, ça n'a absolument rien à voir. Rappelez-vous, lors du premier tour, qui avait été organisé quelques jours avant un confinement extrêmement strict. Eh bien, là, on nous disait, allez voter, il n'y a pas de problème. Or, déjà, l'opinion savait qu'il y avait un problème, d'où une abstention massive, inédite pour les municipales. À l'époque, il n'y avait pas de masque, il n'y avait pas vous savez, ces plaques en plexiglas que l'on a maintenant partout, à chaque comptoir, devant les caissières, etc.
Oui, il n'y avait pas de protection, tout simplement.
Il n'y a pas de protection, et on était face à une pandémie qui était à la fois mystérieuse et extraordinaire. On avait des images de gens en Chine qui mouraient dans la rue, etc. C'était absolument terrifiant, et surtout, il n'y avait aucune forme d'organisation. Or, aujourd'hui, ça a radicalement changé. Il y a partout des symboles de distanciation, sur le sol, par exemple, tout le monde a des masques en abondance. Nous sommes désormais malheureusement habitués à toute une série de gestes de précaution. Et je ne vois pas sérieusement en quoi l'organisation d'un scrutin pose plus de problèmes que le fait de se déplacer pour aller au supermarché, par exemple, ou alors pour aller au travail. Donc effectivement, l'argument sanitaire qu'aurait dû être invoqué, à mon avis, lors des municipales l'année dernière, cette année n'avait plus aucun sens.
Arnaud Benedetti, néanmoins, quand même, il va y avoir une campagne. Dans quelles conditions est-ce qu'elle va se dérouler? Comment est-ce qu'on va à la rencontre des gens quand on doit garder ses distances?
C'est toute la difficulté. Une campagne électorale, ça nécessite d'être sur le terrain. Être sur le terrain, c'est rencontrer physiquement des administrés, des électrices et des électeurs sur des marchés électoraux. C'est organiser des meetings, c'est tenir aussi des permanences, donc tout un rituel républicain qui est d'ailleurs profondément ancré, y compris dans l'imaginaire électoral et dans l'imaginaire national. Là, évidemment, les conditions de déroulement de la campagne seront vraisemblablement différentes. Alors, il faut aussi distinguer le scrutin départemental du scrutin régional, qui d'abord n'engage pas les mêmes personnalités, qui ne se déroule pas tout à fait de la même manière dans la relation aux électrices et aux électeurs. Mais on peut imaginer que les formations politiques vont vraisemblablement réduire ce qui se fait très généralement lors de ce type d'élection, c'est-à-dire une présence importante sur le terrain, des militants qui tractent, des candidats qui vont sur les marchés, qui organisent des meetings, et que on va vraisemblablement développer tout un ensemble de stratégies digitales qui permettront, on l'espère, en tout cas de la part des candidats, d'accéder aux électrices et aux électeurs. Mais tout ça ne remplacera jamais le contact direct avec le corps électoral, et ce qui fait que, bien évidemment, on aura des élections qui seront un peu différentes de celles qui se sont déroulées lors des scrutins régionaux précédents. Mais avec, quand même, il faut bien avoir en tête que, et je rejoins ce qu'a dit Jérôme Sainte-Marie, c'est que ce sont des élections qui n'ont jamais fortement cristallisé l'opinion publique et les électrices et les électeurs. Alors, on peut imaginer que lors de ce scrutin, en effet, il y aura vraisemblablement une distance qui sera peut-être encore plus grande, et on peut craindre d'ailleurs une participation qui soit encore plus faible que lors des scrutins précédents. Mais enfin, en tout cas, il va falloir que les candidats, que les formations politiques réinventent une façon de communiquer qui soit en effet différente et qui tienne compte, en l'occurrence, des contraintes sanitaires.
Henri Vernet, et le vote, comment est-ce qu'il va se dérouler? Les maires ont été rapidement consultés à propos d'un report. Ils ont majoritairement, mais pas vraiment largement, voté pour ce report. Est-ce qu'il y a un petit peu de crainte dans les 35 000 communes françaises?
Oui, il y en a. C'est-à-dire que, d'ailleurs, dans ce vote, on a, alors c'est pas flagrant, mais il y a quand même quelque part en filigrane une espèce de différenciation de barrière, pas de barrière sanitaire, mais de barrière d'appréciation entre en gros les maires plutôt ruraux et les maires des grands centres urbains, parce que les maires des communes rurales, d'abord il y a moins de monde, hein, tout simplement par définition. Donc il faut trouver des assesseurs, il faut trouver des dépouilleurs, des gens, alors dont on dit ok, les consignes qui sont données, c'est que les gens vacciner, oui, mais enfin, au rythme de la vaccination en France, il n'y a pas de garantie que suffisamment de monde soit vacciné les 20 et 27 juin.
Henri Vernet, je vais vous couper parce que la ligne se dégrade un petit peu, on va vous rappeler et donc on reviendra peut-être là-dessus. Je vais retourner vers Jérôme Sainte-Marie. Sur le plan politique, qu'est-ce qui va être intéressant de suivre dans ces élections? Vous nous parliez tout à l'heure, comme l'avait fait Arnaud Benedetti, des différences entre les départementales et les régionales. Jérôme Sainte-Marie.
Oui, vous m'entendez?
Oui.
Oui. Nous avons simultanément les élections régionales, donc dans des méga-régions, une douzaine de méga-régions métropolitaines, des élections départementales. Alors ça n'a rien à voir avec les élections départementales. On a beau avoir diminué par deux le nombre de cantons, parce que justement désormais des cantons élisent une déléguée, enfin une conseillère départementale et un conseiller départemental. Mais malgré tout, les élections départementales comme les élections cantonales auparavant sont filles des élections municipales précédentes. Puisque là, vraiment, ça se passe au plus près des habitants, au plus près des communes. Moi, j'ai assisté à des réunions électorales d'élections, à l'époque c'était les élections cantonales, on parlait de l'aménagement, de la petite rue, de problèmes très concrets, très locaux. Et là, la réunion physique était fondamentale. Ça se passait, encore une fois, c'était un canton, c'est un groupe de communes, et à partir de là, on parle de problèmes concrets, de problèmes locaux. Et ça, donc, c'était assez détaché des contingences nationales. L'élection régionale en France, c'est exactement le contraire. C'est donc 12 méga-régions métropolitaines, sans aucune existence en réalité dans la plupart des cas, sauf l'Île-de-France paradoxalement, ou peut-être un petit peu la Bretagne, eh bien, il n'y a aucune existence affective. Ça ne renvoie pas à un vécu particulier des habitants. Imaginez-vous que la Grande-Aquitaine, ça part des Pyrénées, ça arrive quasiment à la vallée de la Loire. On mélange des gens qui n'ont pas la moindre espèce de culture locale commune. Et donc les élections régionales, elles, répondent à l'inverse des départementales, à une logique nationale. Et donc c'est pour ça d'ailleurs que lors des dernières élections régionales, le fait que la gauche se soit effondrée, et qu'inversement, ce qui était à l'époque le Front National, soit à plus de 27%, avait été un signal très important annonçant la présence de Marine Le Pen au second tour de l'élection présidentielle. Donc là, encore une fois, j'insiste, on va avoir deux élections en même temps. Régionale, qui a un sens avant tout national, départementale, qui est avant tout la conséquence des élections municipales dernières.
Alors, Arnaud Benedetti, est-ce qu'il y a, dans ce contexte nationalisé des régionales, des régions symboles qui peuvent basculer et dont l'enseignement national sera particulièrement suivi?
Alors, évidemment, parce que, si vous voulez, aujourd'hui, les régions sont devenues aussi un levier pour l'émergence d'un nouveau personnel politique, d'un personnel politique qui, en fait, va utiliser la région, la grande région, pour en faire un bastion politique, éventuellement un levier pour une stratégie nationale. Alors, on a là un certain nombre de régions. Alors, la région, bien évidemment, des Hauts-de-France, avec Xavier Bertrand, qui fait de cette élection, un round de bataille avant la campagne présidentielle. Il y a aussi la région Île-de-France qui sera particulièrement scrutée, parce qu'il n'aura échappé à personne que Mme Pécresse aussi envisage éventuellement une candidature à l'élection présidentielle. La région de M. Wauquiez, il y a aujourd'hui des régions qui ont à leur tête des femmes et des hommes politiques qui ont en tout cas des ambitions présidentielles. C'est vrai que ces élections régionales, du fait de leur calendrier et encore du fait que ces élections auront lieu en mois de juin, sont au plus près des élections présidentielles. Donc elles exercent d'une certaine manière, presque structurellement, une pression sur cette élection présidentielle. Il y aura aussi un certain nombre de régions où on mesurera quelle est la dynamique du Rassemblement national. Je pense en PACA, où on voit très bien que là, il y a un candidat XLR venant de la droite populaire, M. Mariani, qui dispose d'un profil qui peut éventuellement lui permettre, en tout cas, de troubler le jeu. On scrutera bien évidemment également le score de Sébastien Chenu, toujours pour le Rassemblement national, face à Xavier Bertrand. Il sera aussi intéressant de voir comment la gauche finalement prend ce tournant des régionales, parce qu'on voit que dans un certain nombre de régions, principalement d'ailleurs plutôt dans les Hauts-de-France, la gauche a réussi à s'unir. Dans d'autres régions, on a plutôt une gauche balkanisée. Donc, en effet, ces élections permettront, disons, de cartographier un rapport de force au plus près de l'élection présidentielle.
Henri Vernet, on vous a retrouvé. Est-ce que, enfin, vous le disiez tout à l'heure, la majorité a un petit peu tendance à tenter de les enjamber, de dire c'est forcément un vote sanction, mais en même temps, il y a des enseignements à tirer pour ce qui va se passer quelques mois plus tard.
Bah oui, c'est très clair. En quelque sorte, hein, c'est un peu ce qui vient d'être dit. C'est le dernier stand avant le Grand Prix de la présidentielle, c'est régional.
Le dernier virage, oui, c'est ça.
Oui. Quand je dis l'arrêt au stand, quoi. C'est vraiment là où on va mesurer les forces et les faiblesses de chacun. Et c'est vrai qu'à ce niveau-là, il y a des faits qui sont très révélateurs. Nous, il se trouve qu'on a fait un sondage pour Le Parisien dimanche dernier sur l'Île-de-France, justement. Alors, c'est intéressant parce que pour Le Parisien, il faut savoir qu'on avait arrêté les sondages politiques pendant 5 ans. Et donc là, on les reprend à la fois pour les régionales et les présidentielles.
Pourquoi d'ailleurs, je fais une parenthèse, Henri Vernet, pourquoi vous les reprenez ?
Parce que finalement, il y a toujours des évolutions dans les rédactions. Et finalement, on se rend compte que c'est quand même un outil dans un scrutin, dans une élection, dans une campagne quelle qu'elle soit, nationale ou locale, c'est quand même, ça fait partie du débat en quelque sorte. Le sondage, c'est pas juste quelque chose qui va mesurer un rapport de force à un instant T, ça vous permet quand même de comprendre, de précéder des évolutions et de réellement toucher le terrain de l'élection et des électeurs. Et donc c'est quand même un enseignement utile, et finalement c'est un outil dont on a jugé qu'il vaut mieux l'avoir avec nous que juste suivre ce que font les confrères. Donc c'est pour cette raison-là. Et là, c'est intéressant parce que on voit bien, et il se trouve que le même jour, un confrère, le JDD, pour ne pas le nommer, publiait lui un sondage national, et on voyait bien une espèce de motétie entre les deux, c'est-à-dire que qu'est-ce qu'on voyait en Île-de-France ? On constate un éclatement complet de la gauche qui est extrêmement préjudiciable, c'est-à-dire qu'en 2015, dans cette région-là, Île-de-France, vous aviez une locomotive qui était le PS, et derrière laquelle, certes, ils ont perdu à la fin, mais se sont regroupés les autres. Là, on voit une gauche parfaitement éclatée, donc la liste ELV, les Verts, Verte à 11%, avec Julien Bayou, Audrey Pulvar pour le PS à 12%, et LFI avec Clémentine Autain à 11%. Ça veut dire quoi? Ça, c'est ce qu'on retrouve au plan national, donc ces trois blocs de gauche éclatés. Maintenant, il faut même en rajouter un quatrième avec la candidature de M. Roussel pour le Parti communiste. On voit bien que cette gauche a perdu toute dynamique. Alors donc c'est la grande leçon qu'ils devront tirer de ces régionales, c'est que décidément, sans une locomotive et sans un minimum d'union en vue d'un premier tour, eh bien cette gauche-là ne pèsera pas. On voit d'ailleurs que dans le pays, il y a une véritable désaffection, et ça, quelles que soient les catégories de l'électorat, hein, jeune, moins jeune, diplômé, pas diplômé, etc. On voit dans ce sondage, on voit également que LREM, donc les marcheurs, le mouvement des décidément n'a pas pris. Ça reste un parti, ça reste un mouvement qui est extrêmement lié au sort d'un homme, hein, de celui qu'il a incarné, qu'il a lancé, c'est-à-dire Emmanuel Macron lui-même. Dans la région Île-de-France, eh ben, le mouvement n'est pas parvenu à exister parce que, en gros, enfin, encore une fois, pour reprendre le terme d'un sondage, on est à 11 ou 12% de mémoire, et donc une présence tout à fait aléatoire au deuxième tour, en tout cas, pas en capacité d'emporter la région, parce que tout simplement, cet électorat se confond avec celui de la sortante Valérie Pécresse, en quelque sorte. Ils ont les mêmes aspirations, les mêmes attentes. Donc c'est en ça que c'est intéressant comme scrutin. On voit aussi, d'ailleurs, on s'est intéressé au thème qui mobilisait les électeurs. Alors certes, on retrouve certains des grands thèmes nationaux, hein, la délinquance, la sécurité, qui sont placés très haut, le chômage aussi, bien évidemment, et l'environnement. Donc on retrouve ces clivages, mais c'est vrai que ça a été frappant de voir à quel point le thème de la sécurité, de la délinquance, avec 45%, est le plus important aux yeux des électeurs.
Jérôme Sainte-Marie, en dehors du fait que le Parisien reprenne les sondages, qui est plutôt bon pour vous, puisque vous êtes sondeur, qu'est-ce que vous observez dans ce que vous produisez?
Oui, alors ce que je vois par rapport à ce que vient de dire M. Henri Vernet, c'était effectivement, il y a plusieurs partis, plusieurs formes politiques qui sont dans une situation très compliquée pour ces régionales. Bien sûr, La République En Marche, qui n'arrive pas à s'enraciner localement.
Elle part de rien, il faut le préciser, c'est ce qu'elle va d'ailleurs, c'est ce que les délégués du parti vont marteler.
Elle part de rien et elle part de tout. Elle part de rien, c'est-à-dire qu'effectivement, elle n'a aucun élu sortant, pour ainsi dire, mais elle part de tout à mesure où elle contrôle le pouvoir national, et qu'il y a encore un ou deux ans, les nombres de ralliés étaient importants. Il y a deux ans, vous savez, on pensait que La République En Marche allait remporter Paris, tout simplement, parce que c'était là où Emmanuel Macron avait fait des scores invraisemblables. Or, pour l'instant, ça ne se passe pas. La droite maintient assez largement ses positions, on l'a vu lors des municipales, on le verra sans doute, puisqu'à quelques sortants, lors des régionales et départementales. La situation de la gauche est beaucoup plus compliquée, parce que là, vous avez plusieurs... des parler de blocs, c'est même pas le cas, en fait, c'est plutôt des pôles. Vous avez les écologistes, vous avez les socialistes traditionnels, vous avez tout ce qui gravite autour de la France insoumise, et elle ne sait plus où elle habite. Vous avez, par exemple, la France insoumise. Il y a des régions où elle fait alliance avec le NPA, et il y a des régions, comme par exemple les Pays de la Loire, on a appris ça aujourd'hui, où la liste, la France insoumise, se met derrière l'ancien député de La République En Marche, Mathieu Orphelin, ça c'est un Pays de la Loire donc. Et là, sous prétexte qu'il est écologiste. Bref, pour la France insoumise, ça sera sans doute une énième station de sa montée au calvaire, si je veux dire. Et donc, vous avez effectivement des contradictions très importantes qui apparaissent.
Qu'il n'y a pas très longtemps, vous avez raison, oui.
Pardon, c'est assez c'était... compliqué. Pardon ?
C'était pas qu'il n'y a pas très longtemps, vous avez raison de le souligner.
Voilà. C'est assez compliqué, si vous voulez, pour la gauche. On ne voit pas dans les sondages qui sont faits au niveau national comme au niveau régional, on ne voit pas tellement de solutions gagnantes. Alors, le paradoxe de ces élections régionales et départementales, c'est que les deux forces politiques les mieux placées, d'après les sondages qui sont publiés actuellement, je pense au sondage IFOP et JDD récemment, au sondage ELAB et FMTV aujourd'hui, les deux forces qui semblent le plus qualifiées pour le second tour à présidentiel, c'est-à-dire Emmanuel Macron d'un côté, Marine Le Pen de l'autre, risquent d'être pratiquement absentes des résultats réels des élections régionales et des élections départementales, alors même que des forces désormais un peu secondes au niveau national, la gauche, la droite, les écologistes, vont sans doute conforter leur position acquise.
Arnaud Benedetti, on ne gagne pas la présidentielle ou régionale, évidemment, mais est-ce qu'on peut la perdre? Xavier Bertrand dans les Hauts-de-France, Valérie Pécresse en Ile-de-France, son candidat affirmé ou fortement pressenti à droite, est-ce qu'ils prennent un gros risque en allant devant les électeurs à quelques mois de la présidentielle?
Oui, enfin, de toute façon, toute élection est une prise de risque. Ça, c'est la loi, j'allais dire, de la démocratie. Mais,
ouais, mais Xavier Bertrand a quand même dit que s'il était battu, ce serait la fin de sa vie politique.
Et bien évidemment, il est clair qu'une défaite de Xavier Bertrand dans les Hauts-de-France ou une défaite de Mme Pécresse en Ile-de-France serait totalement invalidante pour ensuite pouvoir postuler à la présidentielle. Ça, je veux dire, ça va de soi. Donc, ces élections régionales vont malgré tout permettre de confirmer ou d'infirmer un certain nombre de stratégies nationales de la part, en tout cas, des candidats et des présidents sortants. Ce qui est vrai, c'est que ce sont des élections dont on peut penser qu'elles bénéficieront plutôt aux sortants, d'abord parce que, on l'a vu lors des dernières municipales, dans un contexte de crise sanitaire, les sortants ont plutôt bénéficié d'une prime évidente, et on peut imaginer qu'il en sera de même au régional. Ensuite, parce que les candidats sortants peuvent exciper un bilan, y compris durant la crise sanitaire, où en l'occurrence, on a vu beaucoup de présidents de région se démener, parfois se substituer à l'État pour, disons, permettre à leurs administrés d'être soulagés durant cette crise sanitaire. Donc, c'est ces facteurs-là conjoncturel bénéficie aux sortants. Il y a un autre point, c'est que pour revenir sur les dynamiques en fait nationales et sur les deux grandes offres politiques nationales que constituent aujourd'hui, quand on regarde les sondages en vue des présidentielles, la République en marche et de l'autre Marine Le Pen, moi je ferai un petit distinguo. Il y a une dynamique électorale qui est plus forte du côté du Rassemblement national que, en tout cas pour ces élections, que du côté de la République en marche. Donc, on peut considérer en l'occurrence que, bien évidemment, ces élections seront utilisées pour, d'une certaine manière, valider une stratégie, pour en tout cas la renforcer, pour la mettre en scène. Alors, je note qu'il sera quand même très compliqué pour le Rassemblement national de gagner des régions. Ça sera un exercice qui quand même relève pour l'instant encore une fois d'une très grande difficulté, mais il faudra quand même regarder de près finalement les scores respectifs de ces deux grandes offres politiques qui pour l'instant en tout cas au vu des sondages se partagent le spectre politique de la présidentielle.
Oui, Henri Vernet, le Rassemblement National fait jeu égal avec La République En Marche, et pourtant, et même peut-être un petit peu devant dans les sondages nationaux, et le Rassemblement National de Marine Le Pen a besoin de montrer sa force au cours de ces régionales, et je vous demande de répondre assez rapidement, en fait, parce que oui. Il nous reste moins d'une minute.
Oui, il fait jeu égal, et au régional, il fait même un jeu, il a même une dynamique supérieure. Hein. Très clairement, par exemple, pour prendre notre sondage Île-de-France, Jean Bardella, donc la tête de liste RN, se place beaucoup plus haut, que ce soit au premier ou au second tour, que son rival de LREM, hein, des marcheurs. Donc il y a cette dynamique, et Bardella, il n'est pas spécialement connu en Île-de-France, il profite tout simplement de la dynamique de Marine Le Pen, qui se maintient loin d'avoir disparu depuis la dernière présidentielle. Son courant, son mouvement s'est maintenu, elle est là, on le voit de toute façon dans toutes les enquêtes, c'est elle qui a vraiment le rôle et la posture et elle est investie comme telle par les Français d'opposante numéro un et donc pour l'instant d'alternative possible à Emmanuel Macron. Donc ça, c'est évidemment, ces élections-là seront un test très important, moindre toutefois qu'en 2015, parce qu'en 2015, rappelez-vous, il y avait de la part c'était encore le FN, sauf à l'époque, du RN, il y avait un espoir pour eux de conquête de région, on se souvient des oui. Hauts-de-France et de la région PACA, où d'ailleurs c'était Marine Le Pen elle-même et sa nièce Marion Maréchal Le Pen qui était en liste donc, dans les Hauts-de-France et en PACA. Ça s'est joué
Merci.
Un peu tous, là a priori il n'y a pas cet enjeu-là, mais
Merci.
Clairement en effet les scores sont regardés de près.
Oui. Merci Henri Vernet, merci également à Arnaud Benedetti et Jérôme Sainte-Marie, merci à vous d'avoir participé à cette émission, merci à toute l'équipe du débat du jour, on se retrouve lundi, même heure, même endroit. Bonjour chez vous.